Farafina, Farafina, vous écoutez le Farafina.
Farafina, Farafina,
c'est l'heure du Farafina.
De l'Afrique sur CFM, Ndemen Walachou, bonjour, bonsoir, bienvenue en Abyssinie, vous écoutez le Farafina Trip. Aujourd'hui dans cette émission, j'amène vos valises auditives faire un tour en Afrique de l'Est, direction l'Éthiopie. Je me suis dit que pour démarrer cette nouvelle saison du Farafina Trip, ce serait pas mal et judicieux de vous faire découvrir ce pays particulier de l'Afrique. Un pays emblématique que l'on présente comme étant le berceau de l'humanité. L'Éthiopie est aussi une terre énigmatique, mystérieuse, non seulement par son histoire, mais aussi par la richesse de sa culture, notamment musicale ou spirituelle, qui révèle les brassages des peuples de tous les horizons et de toutes les influences dans cette partie du continent que l'on appelle la Corne de l'Afrique. Une autre singularité de l'Éthiopie est que c'est le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé, si ce n'est une brève occupation italienne d'à peine 6 ans. Bien au-delà du symbolisme stéréotypé de pauvreté qui lui colle à la peau, l'Éthiopie recèle énormément de richesses que l'on ne fera qu'entreapercevoir durant l'heure où nous sommes ensemble. Installez-vous confortablement et portons un autre regard sur l'Éthiopie, une des perles de l'Afrique de l'Est. Loin des clichés misérabilistes, on se retrouve juste après le quartet électrique d'Addis Abeba, You Can Dance. Vous écoutez le Farafina Trip sur CFM, le voyage au pays des hommes à la peau noire. Aujourd'hui, je vous emmène en Éthiopie, autrefois appelée l'Abyssinie. C'est un pays d'Afrique de l'Est qui se situe dans la région que l'on nomme couramment la Corne de l'Afrique. Grande comme deux fois la France, l'Éthiopie est limitée au nord par l'Érythrée et Djibouti. À l'est, il y a les Somalis. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais un jour on y viendra. Pourquoi est-ce que je dis les Somalis ? Au sud de l'Éthiopie, on retrouve le Kenya, et puis à l'ouest, il y a le Soudan et le Soudan du Sud. La capitale de l'Éthiopie est la ville d'Addis Abeba, ce qui signifie « nouvelle fleur » en amharique, le dialecte le plus courant du pays. Avec plus de 90 millions d'habitants, l'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, et au niveau mondial, il occupe le 13e rang. Comme on le verra tout au long de cette émission, l'Éthiopie est un pays paradoxal, même au niveau de sa géographie. L'Éthiopie s'étend de la dépression du Danakil, l'une des terres les plus ingrates au monde, qui est à 120 mètres au-dessous du niveau de la mer, jusqu'au haut plateau dont le point culminant est le mont Ras Dachan à 4500 mètres. Terre des coureurs de fond, vivre en Éthiopie nécessite forcément une acclimatation. La capitale Addis Abeba, située au cœur du pays, est à une altitude moyenne de 2400 mètres. En Éthiopie, les habitants conversent dans plus de 90 langues et dialectes, dont les plus importants sont rattachés à la famille des langues sémites, parlées dans le nord de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient. Cette essence sémite qui se retrouve en Éthiopie, ici par la langue, est très intéressante et c'est une pelote que l'on va démêler un peu plus tard dans cette émission, car une fois que l'on tire dessus, on se retrouve embarqué dans une sphère que l'on n'imaginait pas. Il faut dire que durant plus de 2000 ans, toutes les grandes civilisations, qu'elles soient d'Asie, d'Europe mineure, du Moyen-Orient ou d'Afrique, se sont côtoyées dans cette corne de l'Afrique. Les chrétiens, les musulmans, les juifs et les animistes s'y sont confrontés, se sont mélangés pour au final accoucher d'une terre extraordinaire. L'Éthiopie, pas forcément avec ses limites actuelles, est référencée déjà dans la Bible, dans les livres de l'Ancien Testament. C'est aussi le plus ancien État africain indigène à la tête duquel s'est succédé, de manière pratiquement ininterrompue, toute une dynastie de souverains, et ce durant plus de 2000 ans. Quelques faits essentiels à retenir de ce passé. L'existence d'une écriture appelée Gèze, dont les premières traces remontent au 4e siècle de notre ère. Une écriture à 26 caractères de base et environ 200 signes. Et puis dans l'histoire éthiopienne, il y a un personnage qui apparaît dans tous les récits historiques de cette région, et notamment dans les livres des principales religions monothéistes, que ce soit la Torah, le Coran et la Bible. Eh bien, il s'agit de la reine de Saba. Makeda, comme on l'appelle en Éthiopie, que l'on imagine gracieuse et très belle au dire de ses récits. La légende voudrait qu'elle aurait rendu visite au roi Salomon, le grand roi d'Israël, qui, envoûté par sa beauté, aurait fait un pari avec elle pour s'attirer ses faveurs. Elle ne devait rien toucher dans son palais durant tout son séjour, un pari qu'elle va perdre et l'enfant qui va naître de leur union, Ménélik Ier, fut empereur d'Éthiopie, dont nombre de successeurs au trône par la suite vont se proclamer apparentés. Il y a également une légende qui voudrait que l'Arche de l'Alliance, le coffre construit pour abriter les 10 commandements que Dieu a dictés à Moïse, serait enfoui en Éthiopie. Salomon aurait confié l'Arche de l'Alliance à son fils Ménélik Ier pour qu'il le cache en Éthiopie. Cette légende, fondée ou pas, personne aujourd'hui ne peut la justifier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, déjà dans les légendes, sont avancés des liens entre Israël et cette partie de l'Afrique. Ainsi, l'essence sémitique dont j'ai parlé précédemment au sujet des langues éthiopiennes se retrouve aussi là, dans la descendance des souverains qui ont gouverné dans cette partie de l'Afrique. C'est également en Éthiopie que vit la seule communauté de juifs noirs, les Beta Israël, ou encore appelés les Falacha, qui pratiquent apparemment une forme de judaïsme ancestral, avec des rites qui aujourd'hui ne sont plus pratiqués nulle part ailleurs, et même en Israël. Vrai ou pas, c'est intéressant tout de même. Thank you. Aujourd'hui, dans le Farafina Trip, nous sommes en Éthiopie, un pays singulier d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Après la conférence de Berlin qui sonne le début officiel de la colonisation de l'Afrique, les Italiens s'y aventurent et sont sèchement écrasés par les Éthiopiens qui conservent leur souveraineté. En 1935-36, Mussolini revient à la charge et arrive à rester dans le pays jusqu'en 1941. C'est la seule occupation, on va dire, étrangère que connaîtra le pays. Jusque dans les Antilles, cette réputation de dignité aura des répercussions. Aujourd'hui, si vous écoutez du reggae, de n'importe quel pays, vous entendrez des reggae-man chanter ou crier « Rastafari », qui abrégé donne « Rasta ». Les Rasta, en Jamaïque et ailleurs dans le monde, portent des dreadlocks, tout comme les résistants éthiopiens des années 30 qui avaient juré de ne pas se couper les cheveux jusqu'à avoir expulsé les Italiens d'Éthiopie. Que ce soit donc par l'acte de se laisser pousser les cheveux en dread ou encore le fait de fumer de l'herbe, de la ganja, toutes ces allusions sont en lien avec l'Éthiopie. Selon la croyance Rasta, car c'est une croyance, il ne faut pas croire, un messie viendra libérer les hommes noirs de leur asservissement. Et ce messie, ils l'ont vu en Haïlé Selassie Ier, empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974, 225e descendant du roi Salomon d'Israël. Rastafari était en fait le nom de naissance d'Haïlé Selassie. Raz, signifiant « prince », et Tafarai, qui veut dire « celui qui est redouté ». Adulé, il le fut. Il faut voir l'accueil que lui ont réservé les Jamaïcains lors de sa visite officielle dans le pays en 1966. Au début de son règne aussi, les Éthiopiens vont y croire. Sur le plan local, il va moderniser le pays. Et à l'international, il va adopter des positions clairement panafricaines. Et c'est pourquoi la capitale Addis Abeba est le siège de l'Union africaine, l'équivalent de l'Union européenne en quelque sorte. Mais comme d'habitude, le pouvoir change les gens. Haïlé Selassie Ier va prendre un virage d'autocrate pour finir comme tout dictateur, isolé, craint de tout le monde. Finalement, ses positions pro-occidentales durant la guerre froide auront raison de sa destinée. En 1974, il est détrôné par un coup d'État fomenté par des militaires communistes soutenus par le Bloc de l'Est et meurt l'année d'après dans des circonstances qui restent toujours floues. Après lui, les Éthiopiens vont clairement toucher le fond. Une junte militaire stalinienne appelée Derg prend le pouvoir et elle va mettre sur pied un régime de terreur qui prendra fin au début des années 90. C'est durant cette dictature militaire que va se produire l'une des catastrophes humanitaires les plus médiatisées. La famine du milieu des années 80 qui va causer la mort de près d'un million de personnes. Même si au départ cette famine était liée au manque de pluie, cette catastrophe a été aggravée par les guerres intestines et la guerre contre l'Érythrée, le pays voisin. La junte militaire au pouvoir, le Derg, va se servir de ce drame, la famine, pour redistribuer les cartes démographiques du pays et affamer les régions contestataires. Les images des enfants éthiopiens mourant de faim vont faire le tour du monde, et depuis, cette image de miséreux colle à la peau de l'Éthiopie et cristallise le stéréotype de l'Afrique misérable.
Yes, I can't wait. tal shifrin fikre ko ya hazen berdo al tele yeshini me ya and as a bet ati che sharau ke me benapko tlago ya salasal kush tanare sanyiko wa nebrech malet menfesin awoko የሰከከውን ጽፍ የመለክ መርዶ ለምን ለምን ታልሽ ፍቅሩ ያዘን በረዶ ኢያሰላሰኩሽ ከበረሳኒከው ነበረች ማለት መንፈሴ ከናውቅ የሰከከን አንቺ የመለየት መርዶ ታልሽ ፍቅሬ ቆ ይያዘን በረዶ
Depuis cette famine des années 80, l'Éthiopie est le symbole de l'Afrique pauvre, affamée, misérable, alors que mine de rien, c'est un pays qui n'a rien à envier à d'autres. L'Éthiopie est grande comme deux fois la France, avec une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés et dont plus de la moitié des terres est arable. L'économie éthiopienne est largement soutenue par l'agriculture. On y cultive beaucoup de céréales, du mil, de l'orge, du sorgho, du maïs, mais aussi du coton, des épices, des fleurs et surtout le thé, le kat et le café. Le café, omniprésent dans le quotidien de tous les Éthiopiens, d'ailleurs c'est potentiellement d'Éthiopie que viendrait le café qui rythme les heures de tant de gens à travers le monde. La légende voudrait qu'un berger éthiopien avait remarqué que ses chèvres étaient en grande forme après avoir brouté les feuilles de cet arbuste. C'est ainsi que serait partie la consommation de ce breuvage qui se diffusera d'abord dans le monde arabe, où ils vont l'appeler « kawa », c'est-à-dire « revigorant », et après moult traductions linguistiques, « café » en français. Jusqu'à présent, la préparation et la dégustation du café en Éthiopie est un rituel raffiné qui fait partie des mœurs. À l'instar du thé chez les Anglais et les Arabes, le café est sacré en Éthiopie. Tout comme le kat, un autre arbuste dont les feuilles ont des qualités stimulantes et hallucinogènes, lorsqu'on les mâche. Et les Éthiopiens en mâchent des quantités de kat toute la journée, tels des ruminants. Malgré les a priori sur l'Éthiopie et les effets certes dévastateurs de la sécheresse responsable des famines, l'Éthiopie est un pays vert, traversé par de nombreux cours d'eau. Chose que l'on ignore également, l'Éthiopie possède le plus grand cheptel d'Afrique en tête de vache, de mouton et de chèvre. Un cheptel qui est aussi le 10e au niveau mondial. Un paradoxe, quand on voit qu'il peine à être autosuffisant alimentairement. Et pourtant, le pays regorge de nombreuses ressources, notamment agricoles. On en parle juste après le groupe de rock d'Addis Abeba. Voici le Djanoba.
내겐 쓰다볼 꿀레버 자스파 연하감 날 쏘이 마샤 눈노마토 완치 부처가 탈샤 아이라기 묻마지 뱃가는 아이라기 묻마지 뱃가는 Man wird nachfügig, bete Schalmadan. Anchi Jaraga, Samre Allah, verdammt. Man wird nachfügig, bete Schalmadan. Anchi Jaraga, Samre Allah, verdammt. Man wird nachfügig, bete Schalmadan. Anchi Jaraga. Tam yalnız batam Ben buna fıkış Beti
Au début de cette émission, je vous ai présenté l'Éthiopie comme une terre de paradoxes. Un autre paradoxe de l'Éthiopie, c'est la présence depuis des centaines d'années d'une communauté de juifs noirs constituée de quelques milliers d'individus que l'on appelle les Falachas, c'est-à-dire les exilés, ou encore les Beta Israël, qui signifie « la maison d'Israël ». L'origine de cette communauté juive à la peau noire, pratiquant un judaïsme multiséculaire, est toujours sujet à débat de nos jours. Certains prétendent que c'est une des 10 tribus d'Israël qui se serait perdue dans cette région de l'Afrique. Et d'autres qu'ils auraient accompagné la reine de Saba lors de son retour de la Terre Sainte. Beaucoup de spéculations qui naissent, il faut le reconnaître, du fait qu'ils aient la peau noire et pas qu'un peu. Comment se fait-il que des Juifs puissent être noirs? Une question qui a posé problème lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Terre Sainte qui était censée accueillir tous ses enfants. Ça a pris du temps, mais finalement dans les années 70, ils ont été reconnus comme juifs et certains ont pu émigrer là-bas. Mais bon, ne les cherchez pas à la télé, sauf dans des sujets qui parlent des ghettos, de drogue ou alors lorsqu'on les assimile à des immigrés clandestins. Miss Israël, il y a 2 ans, était toutefois d'origine falacha et il y a une poignée de juifs noirs qui siègent à la Knesset, le Parlement israélien. Toujours est-il que les falachas, ces juifs noirs d'Éthiopie, suivent les préceptes d'un judaïsme ancestral différent de celui pratiqué en Israël ou ailleurs. Chez les falachas, par exemple, il n'y a pas de rabbin. Les chefs religieux sont des prêtres. La polygamie est permise et de nombreux rituels de pureté sont effectués, alors que les autres juifs ne le font absolument plus. Et le judaïsme n'est pas la seule religion monothéiste à être pratiquée différemment en Éthiopie. Depuis le IVe siècle, l'Éthiopie est chrétienne. Et après l'Arménie, c'est le 2e plus ancien État chrétien au monde. Le christianisme en Éthiopie n'a donc rien à voir avec l'arrivée de missionnaires occidentaux en Afrique. L'empreinte du christianisme est manifeste. À Lalibela, par exemple, une ville sainte du nord de l'Éthiopie, 11 églises rupestres ont été taillées dans la roche dès le 8e siècle. Comme il était de plus en plus compliqué de se rendre à Jérusalem pour faire le pèlerinage, ils vont reproduire symboliquement la Terre Sainte par ces églises taillées dans un bloc de pierre unique. D'où l'appellation de ce lieu, la Jérusalem Noire. En pratique, les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie, qui représentent près de la moitié de la population, continuent de suivre des rites proches des juifs comme la circoncision ou le respect du jour saint, le Shabbat, un particularisme spirituel qui renvoie au premier siècle de la chrétienté. Pour eux, Jésus n'a qu'une seule nature, à la fois divine et humaine, et elle n'est pas séparée. L'islam est aujourd'hui la 2e religion du pays, arrivée 300 ans après le christianisme. Durant plusieurs siècles, l'islam va être la religion de résistance des dissidents dans un pays majoritairement et officiellement chrétien. Comme dans tous les pays africains, la foi dans l'une ou l'autre de ces religions monothéistes s'accompagne bien souvent de croyances animistes. Danse, sacrifice, culte des ancêtres sont toujours pratiqués en même temps que l'une ou l'autre de ces religions monothéistes.
Et naissant de que forme nul au crétin. Et naissant de que forme nul au crétin. Cette yéte se maille à l'aubette et s'étend. Cette yéte se maille à l'aubette et s'étend. Kederona meni shatile chipi. Kederona meni shatile chipi. Fitis vege pilone de te kabei. Fitis vege pilone de te kabei. Sentiete se mai allo bete zeta. ስንት የተሰማኝ አለው በትዝታ ከድሮን አበልሽ አትለችብኝ ከድሮን አበልሽ አትለችብኝ ፊትሽ ፈገግ ብሎን እንድትቀበይ
C'était Tes États, un morceau enregistré en 1972 par Guetta Show, Kassa. C'est l'un des plus gros tubes éthiopiens, repris et interprété par des dizaines et des dizaines de chanteurs. Le Tes États, c'est aussi et surtout un rythme que les musicologues qualifient de blues éthiopien ou d'ethio jazz. Un rythme qui a la particularité de mêler la nostalgie du chant au son des cuivres et du synthé, qui le rapproche un peu de l'afrobeat, tout en gardant la subtile légèreté du Moyen-Orient. Avec cet ethio jazz, on est loin du stéréotype de musique africaine où l'on s'attend à entendre le son des tambours. Et pour cause, l'arrivée des instruments occidentaux va complètement modifier la donne musicale du pays. Les Éthiopiens, encouragés par leurs dirigeants, vont tomber amoureux des cuivres, des synthés, de la guitare par exemple. Dès les années 20, Haïlé Selassie, futur empereur, ramène en Éthiopie une fanfare arménienne et le chef d'orchestre de cette fanfare, Kevork Nalbandian, va être l'auteur de l'hymne éthiopien. Lui et son neveu Nerses Nalbandian enseignent la musique et montent divers orchestres qui vont poser les bases du rythme abyssin, le fameux tchik-tchik-ka. Dans les années 60 et 70, c'est l'euphorie musicale en Éthiopie. Les apports de l'extérieur, que ce soit d'Occident ou du monde arabe, sont vite digérés et intégrés dans le style musical. Contrairement à pratiquement tous les pays d'Afrique noire, la seule influence qui n'est pas reprise est le style latino. En tout cas, la soul, la guitare électrique, le synthé, à la manière délicate du Moyen-Orient, font fureur. Ce qu'il reste finalement d'éthiopien vraiment dans cette musique, c'est la mélodie, le rythme, qui est vraiment et typiquement de la musique traditionnelle éthiopienne. Parmi les grands chanteurs de cette période faste, un certain Mahmoud Ahmed, que l'on écoute avant que je ne vous parle de lui.
Te me musica era mila destai anchi ልጅ ኤረምላ ተረዳሁት በቃ ኤረምላ እንደምላ ሜላ ኤረምላ እንደምላ ሜላ ኤረምላ አልፈልግ ፍቅር ካንቺ ሌላ እንደምላ ሜላ ኤረምላ እንደምላ ሜላ ኤረምላ አልፈልግ ፍቅር ካንቺ
L'âge d'or de la musique éthiopienne se situe entre les années 60 et 70, même si actuellement une scène bouillonnante d'inventivité a pris le relais. Il faut reconnaître tout de même que leurs prédécesseurs ont inventé et produit des styles élégants qui puisent leurs racines dans la tradition et les apports extérieurs. La palette des musiques d'Éthiopie va du jazz, plutôt swing, à un blues du désert qui rappelle un peu celui des Touaregs, avec aussi ici des mélodies lancinantes et des voix mélancoliques qui bouleverse forcément. C'est une musique d'Afrique qu'il faut absolument découvrir et écouter, une musique qui s'est construite dans le secret pratiquement, car on en entend peu parler. Rares sont les programmateurs de festivals ou les diffuseurs en Europe qui programment des artistes éthiopiens, alors que bon, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est vrai que c'est les pays où les Éthiopiens ont émigré en majorité, et bien on a plus de chances de les voir sur scène, mais je vous invite, vous qui m'écoutez, à être curieux de cette musique qui forcément vous touchera, car comme le dit Mahmoud Ahmed, un des monuments de cet âge d'or de la musique éthiopienne, quand on chante, si on met la bonne intonation, tout le monde peut comprendre parce que tout simplement les émotions sont universelles. Et pour vous faciliter l'accès à cette musique, il y a le travail inédit de Francis Faletto qui dépoussière depuis des années les disques d'artistes parfois tombés dans l'oubli avec la collection de CD Éthiopique que vous trouvez facilement chez tout bon disquaire ou sur les sites de vente en ligne. Au fil des années, cette série de CD s'étoffe et permet de découvrir un patrimoine musical africain majeur.
Thank you. ያሰላሰልኩሽ ከንፈረኝ ሳኝከው ዋ
ነበረችኝ ማለት መንፈሴን አወቀው
J'espère que vous avez apprécié le voyage en Éthiopie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur CFM, pour un autre voyage au pays des hommes à la peau. C'était le Farafina Trip. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. On reste ensemble. Farafina Trip sur CFM. Un voyage en musique à travers le continent africain, le mercredi à 22h, le dimanche à 15h.